Chapitre 21. Dans la pierre de Théar. Au pied du mur d'enceinte de Théar, alors que la gadoue des faubourgs cédait la place à des pavés, Rand remarqua du premier coup d'œil l'absence de sentinelles. Malgré les larges remparts et les tours de garde, la ville était moins défendue que le sanctuaire Shangtai, dont Rand et les autres humains, à l'aube, s'étaient vus poliment mais fermement refuser l'accès. La porte bardée de fer de la salle des gardes, sous l'arche d'entrée, était grande ouverte. Devant, une femme à l'expression farouche, les manches de son chemisier remontées, lavait du linge dans une lessiveuse. À première vue, elle avait élu résidence ici, car deux gosses qui suçaient encore leurs pouces la flanquaient, les yeux écarquillés sur le passage des cavaliers. Ou des chevaux, plutôt. Grand étalon noir au puissant poitrail, Tai Daishar attirait immanquablement l'attention. Rand avait pourtant choisi de le monter. Si les rejetés pouvaient le trouver aisément, comme au manoir d'Algarin, à quoi bon se cacher? Du moins, au-delà de quelques précautions raisonnables. Pour dissimuler la tête de dragon sur le dos de ses mains et le héron gravé dans ses paumes, le jeune homme portait des gants noirs. Sa veste anthracite, des plus ordinaires, n'arborait aucun ornement, et il avait opté pour une couverture de sel banale. Enfin, comme toujours, la poignée de son arme et son fourreau étaient recouverts de cuir de sanglier passe-partout. Vêtu d'une robe de laine verte très sobre, Katsuane avait relevé la capuche de son manteau, afin de dissimuler son visage sans âge d'Aes Sedai. En revanche, Mine, Nineveh et Alivia n'avaient aucun besoin de déguisement. Cela dit, la veste rouge brodée de fleurs et le pantalon moulant de Mine risquaient d'attirer les regards, sans même mentionner ses bottes rouges à talons. Au Kairien, Rand avait vu des femmes vêtues ainsi pour imiter sa compagne, mais il semblait improbable que cette mode ait atteint Théar, où la pudeur et la sobriété régnaient en maîtresse. En public, du moins. Nineveh resplendissait dans une robe de soie bleue rayée de jaune. Mais à Théar, beaucoup de gens portaient de la soie. Comme souvent, elle exhibait tous ses bijoux, par bonheur un peu cachés par son manteau bleu. L'ancienne sage-dame avait même eu la prétention de porter son châle. Mais pour l'instant, il était dans ses fontes, une concession minimale. Rand remarqua ensuite le bruit. Une sorte de cliquetis rythmique ponctué à intervalles réguliers par un sifflement perçant. D'abord faible, le phénomène devenait de plus en plus proche. Malgré l'heure matinale, les rues qu'on apercevait depuis la porte grouillaient de monde. Une bonne moitié des passants, nota Rand, étaient des Ata Admiré, les hommes torse nus et les femmes en chemisier de couleur vive. Tous arboraient de larges ceintures beaucoup plus bariolées que celles des Théariens lambda. Tous les regards étaient tournés vers la source de l'étrange son. Jaillissant de la foule, des gamins évitaient adroitement les charrettes tirées par des bœufs à grandes cornes et couraient en direction du bruit mystérieux. Passant la tête hors de la fenêtre d'un fiacre laqué de rouge, un marchand à la barbe fourchue cria à son cocher de retenir l'attelage soudain nerveux. Puis il tendit le cou, yeux écarquillés pour mieux voir. Effrayés par un sifflement plus strident que les autres, des pigeons aux ailes blanches s'envolèrent des toits pointus où ils étaient perchés. Dans leur panique, deux vols se percutèrent, lâchant sur la foule une petite averse d'oiseaux à moitié assommés. Quelques passants s'arrêtèrent, cherchèrent l'origine du bruit et levèrent les yeux au ciel. Les autres, largement majoritaires, ramassèrent les oiseaux étourdis et leur tordirent le cou. Dans ce lot, il n'y avait pas que de miséreux en quête d'un repas. Debout près d'une chaise à porteurs, une femme tout en soie et en dentelle ramassa 5 ou 6 pigeons, avant de tourner elle aussi la tête vers le son de plus en plus proche.
« C'est un mauvais présage ou un bon ?» demanda Olivia. « Mauvais, je dirais, sauf si les pigeons chez vous sont différents. »
Nineveh foudroya la Sianchanienne du regard, mais s'abstint de tout commentaire. Depuis le départ surprise de Lan la veille, elle se montrait très taciturne.
« Certains de ces gens finiront par mourir de faim, »
souffla tristement Mine.
« En fait, tous ceux autour desquels je vois des images. »«
Comment pourrais-je me cacher ?» ricana soudain Loustérine. « Je suis un Taveren. »«
Tu es mort, surtout, » répliqua sèchement Rand. Des gens étaient condamnés et ce maudit spectre ricanait. Quand Mine énonça une sentence, il n'y avait rien à faire, mais de là à s'en réjouir.
Le Taveren, c'est moi. Moi!
Que se passait-il d'autre à Théar à cause de la présence du dragon réincarné? Sa nature de Taveren n'avait pas toujours des conséquences, mais dans le cas contraire, une ville entière pouvait être atteinte. Le mieux serait d'en finir au plus vite avec ce qui l'amenait, avant que les mauvaises personnes comprennent ce que signifiaient des incidents tels que la collision de pigeons. Si les rejetés en étaient à lui envoyer une armée de Trollocs et de Myrdraal, il semblait évident que n'importe quel suppôt des ténèbres sauterait sur l'occasion de lui planter une flèche dans le cœur. Faire peu d'efforts pour se cacher, ça ne voulait pas dire s'exposer inutilement.
« Tu aurais aussi bien pu venir avec l'étendard de la lumière et une escorte de 1000 soldats, et non 6, »
marmonna Katsuane. Maussade, elle lorgna les promises qui faisaient mine de n'avoir aucun rapport avec le groupe de Rand, alors qu'elle formait un cercle autour. Très discrètes, ces guerrières, avec leurs choufas et leurs voiles noires abaissées. Deux d'entre elles, des Shaido, avaient les yeux brillants dès qu'elles les posaient sur Rand. Au moins, les Aiels ne brandissaient pas leurs lances accrochées dans leur dos. Une concession, parce que Rand avait menacé sinon de ne pas les emmener. Le foudroyant du regard, Nandera avait insisté pour que quelques guerrières l'accompagnent. En réalité, Rand n'avait jamais envisagé de refuser. Unique enfant d'une promise, de mémoire de promise en tout cas, il était tenu par certaines obligations. Rand tira sur ses rênes quand un énorme chariot déboula devant lui. Cliquetant et sifflant, ce véhicule en partie métallique avançait sur des roues cloutées qui arrachaient des étincelles au pavé. Sans chevaux pour le tirer, il progressait à la vitesse d'un homme et semblait propulsé par une étrange machinerie qui crachait de la vapeur. À ce que crut comprendre Rand, un axe de bois montait et descendait, actionnant un autre axe qui faisait tourner une roue. Un levier qui ressemblait à une barre à l'avant devait servir à faire tourner l'engin à droite ou à gauche. Un des trois hommes debout dans le chariot tira sur une corde et de la fumée s'échappa d'un tuyau au-dessus d'un grand cylindre de fer. Si les passants regardaient le spectacle avec des yeux ronds, certains se bouchant les oreilles, l'attelage du marchand barbu réagit plus violemment. Hennissant follement, les deux chevaux s'emballèrent, faisant s'éparpiller les gens devant eux et manquant arracher la tête de leurs passagers. Des jurons montèrent de la foule, surtout quand les mules de plusieurs charrettes imitèrent leurs grands cousins, alors que même certains bœufs accéléraient le rythme. Dans le lien, Rand capta la surprise de mine. Contrôlant son étalon avec les genoux, bien dressé, Tai Daishar obéissait au doigt et à l'œil, même quand il avait peur, Rand aussi écarquilla les yeux. À première vue, l'étrange invention de Maître Poel avait fini par fonctionner.
« Mais comment cet engin est-il arrivé à Théar ?» se demanda Rand à haute voix.
Le prototype qu'il avait vu à l'académie de Kairien couvrait à peine quelques pas.
« Monseigneur !»
dit un gamin des rues en haillons et pieds nus. La ceinture en tissu qui tenait son pantalon mangeait au mythe.
« C'est un cheval vapeur. C'est la 9e fois que je le vois. Mon copain, comme là, il n'en est qu'à 7. Un chariot vapeur, Denis !»
rectifia un autre petit trait de misère.
« Chariot, pas cheval !»
Les deux gamins avaient moins de 10 ans et ne leur restait plus que la peau sur les os. Leurs pieds boueux, tout comme leurs frusques, indiquaient qu'ils venaient des faubourgs, où se massaient les défavorisés. En Théar, Rand avait changé beaucoup de lois, en particulier celles qui oppressaient les pauvres, mais il n'avait pas pu tout modifier. Pour être honnête, il n'avait pas su par où commencer. L'Oustérine pérora sur les baisses d'impôts qui créaient des emplois, ou quelque chose dans ce genre, mais son discours, comme toujours, se révéla incohérent. Agacé, Rand le réduisit au quasi-silence qui devenait son lot quotidien.
« Accrochés les uns aux autres, 4 chariots en tiraient au moins 100 !»
reprit Donnie, ignorant son camarade.
« Cette caravane parcourait 40 lieues par jour, seigneur! 40 lieues !»
Com soupira d'agacement.
« Ils étaient 6, Donnie, et ils tiraient seulement 50 chariots. Mais ils parcouraient plus de 40 lieues par jour. Parfois, ça montait jusqu'à 45, selon un des conducteurs. »
Donnie se tourna vers Com et le foudroya du regard. Hargneux, les deux gosses serrèrent les poings.
« Quoi qu'il en soit, c'est formidable !»
dit Rand, soucieux d'étouffer dans l'œuf un pugilat.
« Tenez les gars !»
Glissant une main dans sa poche, il en tira 2 pièces, qu'il jeta au mioche sans chercher à vérifier leur valeur. 2 éclairs d'or zébrèrent l'air avant que les gamins saisissent au vol l'étonnant obol. Surpris, ils se regardèrent, puis détalèrent comme s'ils avaient le ténébreux à leur trousse, parce qu'ils craignaient que Rand leur reprenne les pièces, bien entendu. Avec autant d'or, leur famille vivrait pendant des mois. Mine regarda les gosses filer avec une expression peinée. Même quand elle se fut reprise, sa mélancolie se déversait toujours dans le lien. Qu'avait-elle donc vu? Des présages de mort, sans doute. Rand bouillait de rage, pas de tristesse. Combien de dizaines de gens périraient avant la fin de l'ultime bataille? Et dans le lot, combien d'enfants? En lui, il n'y avait plus de place pour la mélancolie.
« Très généreux, »
fit Ninévé d'un ton pincé.
« Mais allons-nous rester là jusqu'à midi ?»
Le chariot vapeur s'éloignait rapidement. Pourtant, la jument replète de l'ancienne sage-dame renaclait toujours, et sa cavalière avait du mal à la contrôler. Persuadée d'être douée pour l'équitation, Ninévé se faisait des illusions sur elle-même. En revanche, pour maîtriser la jument paniquée tout droit sortie des écuries d'Algarine, il fallait la main sûre et ferme de Mine. Même remarque pour Alivia, qui s'en tirait aussi bien que Katswané. La Séan Chanienne faisait parfois montre d'attitude étonnante. Cela dit, les Daman étaient censés savoir tenir sur un cheval. Alors qu'ils entraient en ville, Rand jeta un dernier coup d'œil au chariot vapeur, déjà presque invisible. « Remarquable » était un mot trop faible. Qu'on puisse tirer 100 ou 50 chariots, le bon terme était incroyable. Les marchands renonceraient-ils aux chevaux? Pas tout de suite, probablement. Conservateur dans l'âme, il ne se précipitait pas sur les nouveautés. Pour une raison connue de lui seul, Loustérine éclata de rire. À l'inverse de Kemlin ou de Tarvalon, Théar n'était pas une belle ville. Aucune de ses avenues n'impressionnant par sa largeur. Cela dit, elle comptait parmi les plus grandes cités du monde. Comme toutes les mégalopoles, elle avait grandi dans la plus totale anarchie. Le long de ses rues sinueuses, les auberges aux toits de tuiles et les écuries aux toits d'ardoise voisinaient avec des palais aux dômes blancs et des tours ou des flèches qui tutoyaient le ciel limpide du début de matinée. Pareillement, les forges, les coutelleries, les boucheries, les poissonneries et les marchands de tapis jouxtaient de grandes structures en marbre aux portes de bronze flanquées de colonnes blanches, des sièges de guildes, des banques, des comptoirs commerciaux. À cette heure, les rues étaient encore sombres. Pourtant, elles grouillaient d'activité, la célèbre frénésie industrieuse du Sud. Presque aussi vite que les gamins occupés à jouer, des chaises à porteurs se faufilaient dans le trafic, tandis que les fiacres et les calèches, malgré leur attelage de 4 ou 6 chevaux, se traînaient aussi lentement que les charrettes et les chariots, pourtant tirés par des bœufs. Ployant sous la charge, souvent suspendu à une perche posée sur les épaules de 2 hommes, les porteurs avançaient péniblement au milieu des apprentis eux aussi chargés comme des mules. Comme dans toutes les cités, les marchands ambulants proposaient leurs camelotes sur des plateaux qu'ils portaient autour du cou ou sur une brouette. Des épingles et des rubans pour l'essentiel, avec un peu d'alimentaire, par exemple des cacahuètes grillées ou des tourtes à la viande. À chaque intersection, des artistes de rue en quête de piécettes faisaient leur numéro. Une ville assiégée, ça, il fallait le savoir pour le croire. Cela dit, tout n'était pas paisible. Malgré l'heure matinale, Rand vit des ivrognes se faire expulser des tavernes par leurs fonds de pantalon. Et partout, les pugilats et les rixes se succédaient à un tel rythme qu'on aurait pu se croire sur un terrain d'exercice. Pas mal d'hommes armés se mêlaient à la foule, les manches de leurs vestes de laine rayées aux couleurs de leur maison. Mais pas un, même ceux qui portaient un plastron et un casque, n'esquissait un geste pour arrêter les bagarres. En revanche, pas mal de ces hommes étaient impliqués dans une sale affaire. Contre un confrère, contre un ou des à admirer, ou contre des miséreux qui pouvaient être des ouvriers, des apprentis ou des provocateurs de tout poil. Quand ils n'avaient rien à faire, les soldats s'ennuyaient. Du coup, ils picolaient et se battaient comme des chiffonniers. Rand se réjouit de voir les hommes des rebelles s'ennuyer. Alors qu'elle se frayait un chemin dans la foule, faisant mine de n'avoir aucun lien avec le jeune homme, les promises s'attiraient main regard et hochement de tête, surtout de la part des Hata admirés. À part ça, une meute de gamins les suivait, les yeux ronds. Les Théariens, un grand nombre ayant la peau à peine moins noire que les membres du peuple de la mer, avaient déjà croisé des aïels. S'ils semblaient étonnés d'en revoir en ville, ça semblait être le cadet de leurs soucis. À vrai dire, personne n'accordait beaucoup d'attention aux cavaliers et à leur escorte à pied. Pour commencer, des cavaliers, il y en avait d'autres dans les rues. Presque tous des étrangers. Là, un marchand kyrienien au teint pâle. Ici, une domanie à la peau cuivrée, dans une robe d'équitation presque transparente, à peine cachée par un manteau. Ces deux gardes du corps à la traîne. Un peu plus loin, un rude guerrier du Chiennard, le crâne rasé, à l'exception d'un toupet grisonnant, et le ventre débordant de sa veste, sans doute à cause des ravages de la civilisation. À Théar, impossible de faire 10 pas sans croiser un étranger. Ici, le commerce ratissait large. Cette indifférence ne suffit pas pour garantir à Rand une paisible traversée de la ville. Juste devant lui, un petit mitron qui courait comme un dératé s'en mêla les pinceaux et s'étala, son panier d'osier s'envolant dans les airs. Quand il se releva, alors que Rand passait, le môme écarquilla les yeux, quand il vit les baguettes massées à un bout du panier, dressées comme des quilles et parfaitement intactes. Un ivrogne en manche de chemise, occupé à boire devant la fenêtre de sa chambre, au deuxième étage d'une auberge, bascula soudain dans le vide. Criant de terreur à l'idée d'une mort certaine, il atterrit sur ses pieds, à moins de 10 pas de taille d'Aïchar, sa chope toujours à la main. Avant de le dépasser, Rand vit qu'il se palpait le torse, incrédule. Des ondes de hasard sans cesse modifiées suivaient Rand et se répandaient dans la ville. Tous ces événements ne se révélèrent pas aussi drôles que l'affaire des baguettes, ni aussi positifs que le sauvetage du poivreau. Ces ondes, Rand le savait, pouvaient aussi transformer une chute banale en accident mortel. Et en faisant sortir de leur bouche des insultes qu'ils n'auraient pas cru connaître, elles faisaient naître une haine éternelle entre deux hommes qui auraient sinon oublié leur dispute en 5 minutes. Alors qu'elles subissaient depuis des années de simples tracasseries, des femmes décidaient d'empoisonner leur mari. Côté positif, un type pouvait très bien trouver dans son jardin un gros sac d'or, sans savoir pourquoi il avait eu envie de creuser à cet endroit. Un autre obtenait enfin la main de sa belle, qu'il n'avait jusque-là jamais osé approcher. Mais il ne fallait pas se tromper. Les coups de malchance étaient aussi nombreux que les bonnes fortunes. Mine avait un nom pour ce phénomène, l'équilibre. Un bien contre un mal. Maussade, Rand avait plutôt l'impression que c'était un mal contre un bien. Oui, Il devait faire ce qui s'imposait à Théard, puis repartir aussi vite que possible. Galoper étant hors de question dans ces rues embouteillées, il accéléra assez le rythme pour forcer les promises à courir. La destination du petit groupe fut visible bien avant qu'il ait franchi les portes de la ville. Formidable masse de roches évoquant une montagne, la pierre de Théard s'étendait des berges du fleuve Erinine jusque dans le cœur de la ville, soit un bon quart de lieue carré. Dominant toutes les autres structures environnantes, c'était la plus vieille forteresse de l'histoire. Sa naissance remontait au dernier jour de la dislocation du monde, et le pouvoir de l'unique seul y avait présidé. Une construction sans une once de mortier quelque part. En 3000 ans, les intempéries l'avaient patinée, mais quasiment pas altérée. Si les premiers remparts se trouvaient à quelque 300 pieds du sol, on trouvait dessous une multitude de meurtrières et de mâchicoulis. La pierre étant adossée au fleuve et possédant ses propres quais, aucun blocus n'était possible. À l'intérieur, il y avait suffisamment de forges et de fabriques pour remplacer ou réparer toutes les sortes d'armes en cas d'épuisement des stocks. En haut de la tour centrale, le symbole de Théard flottait au vent. Moitié rouge et moitié noir, avec 3 croissants en diagonale, cet étendard géant se voyait de très loin, même quand des bourrasques le forçaient à se plier un peu. Mais pour ça, il fallait une sacrée tempête. Sur les tours moins hautes, des répliques plus petites alternaient avec l'antique étendard noir et blanc sur fond rouge des Aes Sedai. L'étendard de la lumière, disait-on. Ou l'étendard du dragon, pour certains. Comme s'il n'existait pas un autre drapeau portant ce nom. Le haut seigneur Darlin ne faisait pas mystère de son allégeance, semblait-il. Une très bonne chose. Alanna était à l'intérieur de la pierre. Pour le bien ou pour le mal, Rand la prendrait bientôt. Depuis qu'Elaine, Avienda et Min l'avaient liée à elle, il sentait moins la présence de la Aes Sedai. Mais elle restait présente dans un coin de sa tête, ne serrée de sensations physiques et émotionnelles. En réalité, voilà beau temps qu'il n'avait pas été assez près de la sœur pour capter tout ça. Sa présence, par Yarand, n'apporterait rien de bon. En le liant, Elaine, Avienda et Min avaient écarté Alanna et pris la main sur elle. De son propre aveu, la Aes Sedai ne sentait pas grand-chose de plus que la présence de celui qui aurait dû être son champion. De fait, ce lien-là lui donnait toujours le sentiment d'être une intruse, ou plus exactement, une usurpatrice, visant à miner ce qui le liait aux 3 femmes de sa vie. Alanna, sentit-il, était fatiguée, comme si elle manquait de sommeil depuis des jours, et frustrée, avec de longues crises de colère et de dépression. Les négociations se passaient-elles mal? Rand le saurait bien assez tôt. Même si leur lien était brouillé, Alanna devait déjà savoir qu'il était en ville et qu'il approchait d'elle. Afin qu'il puisse échapper à ce lien purement résiduel, Min avait tenté de lui enseigner une technique appelée masquage. Malgré ses efforts, il n'avait jamais réussi à la maîtriser. Très franche, sa compagne reconnaissait volontiers qu'elle n'était pas parvenue non plus. Très vite, Rand s'engagea dans la rue menant à la place qui entourait la pierre sur 3 côtés. Mais il n'avait aucune intention de continuer tout droit. Primo, parce que toutes les énormes portes bardées de fer seraient fermées. Secondo, parce que, au bout de la rue, il distinguait clairement plusieurs centaines d'hommes armés. Et sauf erreur de sa part, il devait en aller de même devant chaque entrée. Ces soldats ne ressemblaient pas à de féroces assaillants. On eût plutôt dit qu'ils passaient le temps comme ils pouvaient, certains portant leur casque sous le bras, quand d'autres avaient abandonné leur hallebarde contre un mur proche. Indice supplémentaire, les serveuses des tavernes et des auberges environnantes circulaient dans les rangs, proposant sur leur plateau des chopes de bière et des gobelets de vin. Le relâchement le plus complet. Néanmoins, il semblait improbable que ces hommes laissent quelqu'un entrer dans la pierre. Pas vraiment un obstacle. Ces soldats, Rand pouvait les forcer à se disperser comme de vulgaires papillons. Même s'il n'était pas là pour faire un massacre, sauf s'il y était obligé. En conséquence, il entra dans la cour de l'écurie d'une auberge en pierre grise de 3 niveaux. Avec son toit de tuiles, l'établissement semblait des plus prospères. L'enseigne fraîchement réalisée représentait les créatures qui figuraient sur les avant-bras de Rand. Mais l'artiste, peu convaincu par les descriptions disponibles, avait décidé d'ajouter sa petite touche, affublant les pauvres dragons de crocs pointus et d'ailes nervurées parcheminées. Des ailes. Comme ça, les glorieuses légendes ressemblaient aux fichues bestioles volantes des Séanchaniens. Dès qu'elle vit le désastre, Katsuane ricana. Nineveh gloussa comiquement et Min l'imita. Même après que Rand eut donné au garçon d'écurie, sans chaussures, 2 pièces d'argent, ils continuèrent à fixer les promises avec des yeux ronds. Dans la salle commune du dragon, les clients aussi en restèrent bouche bée. Lorsque les aïels, avec leurs lances dans le dos et leurs rondaches au poing, emboîtèrent le pas à Rand et ses compagnes, un silence de mort s'abattit sur l'assistance. En tenue de laine ordinaire mais de bonne qualité, la plupart des hommes et des femmes se tournèrent sur leurs sièges pour mieux voir. Une assemblée de marchands et d'artisans, pas des bouseux tout droit sortis du bout du monde. Pourtant, on eût dit des paysans qui découvraient une mégalopole. Très élégantes dans leurs robes noires à col montant et leurs tabliers blancs, les serveuses s'immobilisèrent, un plateau sur chaque main, et en prirent elles aussi plein les mirettes. Même l'inévitable joueuse de tympanon en oublia de tapoter ses notes. Des yeux brillants sous ses cheveux crépus, un type à la peau d'ébène semblait n'avoir pas remarqué les aïels. D'abord, rendre le prix pour un atahaniré, même s'il portait une étrange veste sans col ni revers, blanche à l'origine, mais froissée et tachée au-delà de l'imaginable.
« Je te l'assure, »
fit-il, son accent étrangement musical.
« Sur un bateau, j'ai une énorme quantité de verres à soie. Mais pour les nourrir, il me faut des feuilles de mûrier. Nous ferons fortune !»
Les yeux rivés sur les promises, le compagnon du type agita vaguement une main.
« Des verres ?»
dit-il distraitement.
« Tout le monde sait que la soie pousse sur des arbres. »
Traversant la salle commune, Rand salua de la tête propriétaire qui avançait à sa rencontre. « Des verres !» Pour soutirer de l'argent aux autres, les escrocs ne reculaient devant rien.
« Monseigneur et mesdames, »
dit l'aubergiste mince et chauve,
« Argando Saranch, pour vous servir. »
Tous les terriens n'étaient pas noirs, loin de là. Celui-ci égalait presque la pâleur légendaire d'un Kyrienien.
« Que puis-je pour vous à ce propos ?»
Les yeux de Saranch retournaient sans cesse vers les promises. Chaque fois qu'il se posait sur elle, le gaillard tirait sur sa redingote bleue, comme si elle était soudain trop petite.
« Nous voulons une chambre avec vue sur la pierre, »
annonça Rand.
« Ce sont bien les vers qui fabriquent la soie, »
dit une voix masculine à l'accent traînant, dans le dos du jeune homme.
« Je parierai mes yeux là-dessus. »
Intrigué par cet accent familier, Rand se retourna et vit qu'Alivia, les yeux ronds, était blanche comme un linge. Pétrifiée, elle fixait le dos d'un type en veste sombre qui sortait de l'auberge. Avec un juron, Rand courut vers la porte, mais dehors, une bonne dizaine d'hommes en veste sombre déambulaient dans les deux directions. Et presque tous étaient assez prêts pour venir de quitter l'auberge. Comment identifier un quidam de taille moyenne entreaperçu de dos? Mais que faisait un Séanchanien à Théar? L'avant-garde d'une nouvelle invasion? Si c'était ça, Rand travaillait déjà à étouffer la menace dans l'œuf. Mais en revenant sur ses pas, il regretta quand même de ne pas avoir pu intercepter l'espion. Savoir était toujours préférable à être dans le noir. Quand il interrogea Alivia, avec l'espoir qu'elle avait vu l'homme mieux que lui, la Séanchanienne secoua la tête. Toujours blême, elle semblait bouleversée. En évoquant ce qu'elle rêvait de faire aux Souldames, elle ressemblait à une tigresse. Pourtant, entendre l'accent de sa terre natale la mettait dans tous ses états. Une faiblesse dans son armure? Il fallait espérer que non. Destinée à l'aider, cette femme ne devait avoir aucune faille.
« Maître Saranch, »
demanda Rand,
« que savez-vous sur l'homme qui vient de sortir? Celui qui a l'accent traînant et qui mâche ses mots? »
L'aubergiste tressaillit.
« Rien du tout. C'est la première fois que je le vois. « Seigneur, vous voulez bien une seule chambre ?»
Balayant du regard mine et les autres femmes, Saranch bougea les lèvres, comme s'il comptait mentalement.
« Si tu penses à je ne sais quel outrage aux bonnes mœurs, »
intervint Nineveh,
« tu ferais bien d'arrêter, aubergiste. »
Elle saisit sa natte et tira très fort.
« Sinon, je te ferai chauffer les oreilles. »
Mine fela entre ses dents, et sa main droite vola vers son poignet gauche avant qu'elle se ravise. Par la lumière, quelle promptitude à jouer du couteau.
« Quel outrage aux bonnes mœurs ?»
demanda Alivia, sincèrement perplexe. Katswane ricana lourdement.
« Une chambre, oui, »
confirma Rand. De toute façon, les femmes trouvent toujours une raison de s'indigner. Une pensée personnelle ou venue de Loustérine. Mal à l'aise, Rand sentit monter en lui une irritation qu'il réussit de justesse à ne pas laisser transparaître dans son ton.
« La plus grande, avec vue sur la pierre. Nous ne resterons pas longtemps. Dès ce soir, vous pourrez relouer. En revanche, nos chevaux seront peut-être chez vous un jour ou deux. »
L'air soulagé, Saranch répondit avec une affliction visiblement feinte.
« Seigneur, quel dommage! Ma plus grande chambre est déjà prise. En fait, il ne me reste que des petites. Mais je me ferai un devoir de vous conduire, toi et ta suite, jusqu'à l'auberge des Trois Lunes, un peu plus haut dans la rue et...
« Baliverne !»
s'écria Katswane. Elle abaissa assez sa capuche pour révéler son visage et une partie de ses ornements en or. Très calme, mais les yeux lançant des étincelles, elle avait de quoi glacer les sangs.
« Mon ami, je parie que tu trouveras un moyen de libérer cette chambre.
Oui, tu as intérêt à réussir. Quant à toi, Rand, n'hésite pas à lui graisser la patte. C'est une suggestion, pas un ordre. »
Saranch accepta sans rechigner la couronne d'or que lui tendit Rand. En une semaine, l'auberge ne devait pas lui rapporter autant. Pourtant, ce fut le visage sans âge de Katswane qui le poussa à gravir quatre à quatre les marches qui donnaient sur les étages. Il revint quelques minutes plus tard, puis guida ses clients jusqu'à une chambre, au dernier étage, qui devait effectivement être sa plus grande. Munie d'un lit assez large pour trois personnes, la pièce au mur lambrissé possédait deux fenêtres qui donnaient sur la pierre de Théard. Expulsé à la hâte, l'occupant précédent avait oublié une chaussette au pied du lit et un peigne en corne sculpté sur la coiffeuse. Sarange proposa de faire monter les fontes de ses clients, puis de leur apporter du vin. Quand Rand refusa, il parut surpris, mais après un coup d'œil à Katswane, il se retira sans insister. Pour une chambre d'auberge, la pièce était effectivement grande. Cependant, rien à voir avec celle qu'on trouvait dans le manoir d'Algarine ou dans un palais. Une dizaine de personnes s'y pressant, l'endroit parut vite étouffant à Rand. Sa poitrine se serra et chaque inspiration devint pénible. Dans le lien, il sentit un flot de compassion et d'empathie.
« La caisse !» dit Loustérine, le souffle court. « Il faut sortir de la caisse !»
Sans cesser de regarder les fenêtres, voir la pierre était indispensable, de plus, contempler tant d'espace libre entre l'auberge et la forteresse, soulager ses symptômes, Rand ordonna à ses compagnes de se plaquer contre les murs. Sans rechigner, les femmes obéirent. Enfin, sans rechigner... Avant d'obtempérer, Katswane jeta un regard noir à son protégé, et Ninevé traîna les pieds. Les autres, en revanche, se montrèrent très disciplinés. Pensait-elle qu'il avait besoin d'une distance de sécurité? Eh bien, en un sens, elle ne se trompait pas. En s'écartant, elle donnait à Rand le sentiment que la chambre était plus grande. Pas de beaucoup, mais chaque pouce équivalait à un don de la lumière. Dans le lien, l'inquiétude dominait.
« Je veux sortir, » marmonna Loustérine. « Il faut que je sorte. »
Se préparant à ce qui allait arriver, et attentif à toute entourloupe du spectre, Rand se connecta à la moitié masculine de la source. Aussitôt, du Saïdine se déversa en lui. Le vieux cinglé avait-il tenté quelque chose? Probablement, oui, mais sans succès. Le Saïdine était à Rand, et seulement à lui, telle une avalanche prête à l'ensevelir. En même temps, des vagues qui auraient pu rendre la glace brûlante fondirent sur lui et tentèrent de l'écraser. Rand se gorgea de pouvoir, se sentant soudain si vivant qu'il aurait juré avoir dormi debout jusqu'à cet instant. Sans effort, il entendait la respiration de toutes les femmes. L'étendard, dans ce qui restait le lointain, il le voyait si clairement qu'il crut distinguer les moindres détails du tissage. Sur son flanc, la double blessure pulsait, comme s'il essayait de s'arracher de son corps. Mais avec le pouvoir en lui, aucune souffrance ne le perturbait. Dans cet état, il aurait pu prendre sans broncher un coup d'épée dans le ventre. Hélas, avec cette ivresse, vint la nausée désormais inévitable. Une envie folle de se plier en deux et de vider son estomac de tout ce qu'il contenait. Les jambes tremblantes, Rand combattit ce malaise aussi ardemment qu'il combattait le pouvoir. Le Saïdine, il fallait l'affronter en permanence. Si on ne l'obligeait pas à obéir, on était mort. Le visage de son sauveur, Ashadar Logoth, flotta brièvement devant les yeux de Rand. L'inconnu semblait furieux et, lui aussi, prêt à vomir tripes et boyaux. Sans l'ombre d'un doute, il avait conscience de Rand. Un mouvement dans n'importe quelle direction, et les deux hommes se toucheraient.
« Que se passe-t-il » demanda Ninevé en approchant. « Tu es tout gris. »
Elle saisit la tête de Rand, qui en eut comme toujours la chair de poule. Mais là, il se dégagea sans douceur.
« Je vais très bien. Reste à distance. »
L'ancienne sage-dame ne bougea pas et gratifia Rand d'un de ces regards indignés que les femmes gardaient toujours dans leurs manches. À l'évidence, elle savait qu'il mentait, même s'il ne pouvait pas le prouver. Pour mettre au point ses fichus regards, ces dames s'entraînaient-elles devant leur miroir?
« Il va bien, Ninevé, »
dit Mine. Pourtant, elle avait aussi le teint grisâtre, et ses mains gantées de rouge appuyaient sur son ventre. Elle savait. Ninevé plissa le nez, mais daigna retourner à sa place. L'âne avait-il fini par en avoir assez? Était-il parti pour la fuir? Non, du pur délire. Pour qu'il la quitte, il avait fallu qu'elle le lui demande. Et il ne resterait pas absent une minute de plus que nécessaire. Ninevé l'y avait envoyé pour des raisons connues d'elle seule. Les Aes Sedai et leurs maudits secrets. Rand canalisa un tissage où l'esprit et le feu se mêlaient. Au pied du lit, une barre verticale familière apparut. Puis elle tourna sur elle-même et laissa voir de grandes colonnes qui se dressaient dans les ténèbres. La seule lumière, c'était celle de la chambre. En lévitation, l'ouverture n'était pas plus large qu'une porte normale. Trois promises voilées la traversèrent, lance au poing. Quand Alivia leur emboîta le pas, Rand en eut de nouveau la chair de poule. La protection du dragon réincarné ne figurait pas dans son contrat, mais elle s'en chargeait quand même, avec autant de sérieux que les promises. Là où ils allaient, il n'y aurait ni embuscade, ni danger. En conséquence, Rand traversa aussi et se reçut souplement de l'autre côté. Ici, le portail évitait un bon pied au-dessus des grandes dalles grises qu'il ne voulait pas abîmer davantage. Le cœur de la pierre. Parce qu'il était connecté au pouvoir, et grâce à la lumière qui sourdait du portail, Rand vit l'étroite fente toujours présente dans la dalle où il avait enfoncé Kalimdor. Qui la retire doit la suivre. Rand avait réfléchi longtemps avant de charger Narishma de lui rapporter l'épée, bien que celui-ci, à en croire les prophéties, aurait dû suivre l'arme, ou du moins son porteur. Narishma avait d'autres occupations désormais. Rand se trouvait au milieu d'une forêt de colonnes rouges, dont le haut tutoyait la voûte de l'immense coupole. Dans la grande salle, l'écho de ses bottes était assourdissant, et le murmure des semelles souples de ses aïeuls s'entendait clairement. Ici, tout sentiment claustrophobique se dissipait. Un couteau dans chaque main, Mine sauta à côté de son compagnon. Aussitôt, elle sonda les ténèbres, prête à tout. Katsuane resta plantée sur le seuil du portail.
« Mon garçon, je ne saute jamais, sauf quand j'y suis absolument obligé. »
Elle tendit une main, attendant que Rand la saisisse. Quand il lui aidait à descendre, elle le remercia d'un hochement de tête. Enfin, elle hocha la tête en tout cas.
« Tu en as mis un temps, »
maugréa-t-elle. Une boule de lumière apparut au-dessus de sa paume. Aussitôt, Olivia en tissa une autre. Au-delà du cercle lumineux ainsi créé, les ténèbres semblèrent soudain plus denses. Ninevé aussi demanda l'aide de Rand, en se fendant d'un « merci » dans son cas. Ensuite, elle tissa un autre globe lumineux. Quand Rand proposa son aide à une promise, Sarendra, une des Shaido, aurait-il parié, même s'il ne voyait que des yeux bleus au-dessus du voile noir relevé, elle grogna de dédain et sauta sans hésiter, une de ses lances au poing. Lorsque les dernières promises furent passées, Rand laissa le portail se dissiper, mais il resta connecté au Saïdin, malgré ses vertiges et la nausée qui le torturaient. En principe, il n'aurait plus besoin de canaliser avant de quitter la pierre, mais pas question d'offrir à Lusterine une autre occasion de s'emparer du pouvoir.
« Tu dois me faire confiance, » marmonna le spectre. « Si nous devons vraiment crever lors de l'ultime bataille, tu n'as rien à craindre de moi. »
« Un jour, tu m'as dit de ne me fier à personne, » rappela Rand. « Toi compris. »
« Seuls les fous ne se fient à personne. »
Sur ces mots, Lusterine éclata en sanglots.
« Pourquoi suis-je condamné à avoir un dingue dans ma tête ?»
Rand réduisit la maudite voix au silence. En sortant du cœur via une arche majestueuse, il fut surpris de tomber sur deux défenseurs de la pierre. En casque à crête et plastron brillant, les manches bouffantes de leur veste noire rayée d'or, ils sondaient les ténèbres, le front plissé. Un mélange de perplexité et de détermination. Sans nul doute, ils étaient perturbés d'avoir aperçu de la lumière et entendu des bruits de pas dans une salle dotée d'une seule entrée, celle qu'ils surveillaient justement. Les promises se déployèrent, menaçantes.
« Au nom de la pierre, c'est lui !»
s'exclama un des défenseurs en rengainant son épée. Costaud, une balafre lui barrant le visage, il s'inclina bien bas, les mains écartées.
« Seigneur dragon, je suis Yagin Hondar. La pierre tient toujours. »
Il toucha sa balafre.
« Récolté ce jour-là. »
« Une blessure honorable, Hondar, et un jour mémorable. »
À la hâte, l'autre défenseur releva sa lame et s'inclina aussi. Sans abaisser leur voile, les promis se détendirent un peu. Un jour mémorable? Des Trollocs et des Myrdraal à l'intérieur de la pierre. La deuxième occasion où Rand avait manié Kalimdor, utilisant comme il fallait l'épée qui n'en est pas une. Des cadavres partout. Une fillette qu'il n'avait pas pu ramener à la vie. Qui aurait pu oublier une journée pareille?
J'ai ordonné que le cœur soit gardé jour et nuit tant que Kalimdor y serait. Mais pourquoi êtes-vous encore là?
Les deux soldats échangèrent un regard troublé.
Vous avez donné l'ordre de monter la garde, Seigneur Dragon,
dit Hondar.
Comme il se devait, les défenseurs ont obéi. Mais sur Kalimdor, vous n'avez rien dit, sinon que nul visiteur ne devait être autorisé à en approcher, sans fournir la preuve qu'il venait de votre part.
Tressaillant soudain, Hondar s'inclina de nouveau, plus profondément cette fois.
Seigneur Dragon, désolé d'avoir l'air de douter de vous. Ce n'était pas voulu, croyez-le. Dois-je faire dire au Seigneur de vous rejoindre dans vos appartements? Comme toujours, ils sont prêts à vous accueillir.
Inutile, répondit Rand. Darlene doit m'attendre, et je sais où le trouver.
Hondar fit la grimace. Son compagnon baissa les yeux, comme si la pointe de ses bottes le fascinait soudain.
Les couloirs, eh bien, parfois, ils changent.
Tiens donc. Ainsi, la trame se délitait vraiment. En d'autres termes, le ténébreux touchait le monde bien plus qu'il l'avait fait depuis la guerre des ténèbres. Si ça s'accentuait d'ici à Tarmon Gaidon, la dentelle de l'âge risquait de s'effilocher. La fin des temps, de la réalité et de la création. Coûte que coûte, Rand devait faire en sorte que l'ultime bataille ait lieu avant que ça se produise. Sauf qu'il n'osait pas prendre ce risque. Pas encore. Après qu'il les eut assurés de ne pas avoir besoin de guide, Hondar et son compagnon n'insistèrent pas. Quand ils disaient pouvoir faire quelque chose, le dragon réincarné ne se vantait pas. En réalité, Rand savait qu'il pourrait localiser Alanna. Il sentait déjà où elle se trouvait, même si elle s'était déplacée depuis le premier contact, pour aller voir Arline et l'informer de la venue de Rand Altor, bien entendu. Selon Mine, Rand tirait les ficelles de cet Aes Sedai. Mais les sœurs trouvaient toujours un moyen de manipuler les manipulateurs. En permanence, elles ourdissaient des plans et des complots. Nineveh en était la preuve vivante. Rectification, elles en étaient toutes la preuve vivante.
« Ils t'obéissent au doigt et à l'œil, ces gens !»
dit Katsuane, en abaissant la capuche de son manteau.
« Être vénéré comme ça risque de te jouer un mauvais tour, mon garçon. »
C'était elle qui osait dire ça? La fichue Katsuane légende Melaidrine?
« Je livre une guerre !»
rappela sèchement Rand. La nausée lui mettait les nerfs en pelote. Une des raisons de son agressivité.
« Moins il y a de gens qui m'obéissent, et plus je risque de perdre. Et si je perds, tout le monde perdra. Si je pouvais plier l'humanité entière à ma volonté, je n'hésiterais pas. »
Il y avait encore trop de gens qui n'obéissaient pas, ou qui interprétaient ses ordres à leur manière. Mais pourquoi diantre Mine éprouvait-elle de la pitié, à en croire le lien?
« Exactement ce que je pensais, »
murmura Katsuane, comme si elle se parlait toute seule. « Et ça, qu'est-ce que ça voulait dire ?» La pierre se parait de tous les ornements des palais, des riches tapisseries et tapis, des merveilles venues du Tarabone, de l'Altara et également produites sur place, jusqu'aux pieds dorés des lampes à déflecteurs. Les coffres alignés le long des murs servaient sans doute à ranger le matériel de nettoyage des serviteurs. Pourtant, ils étaient en bois rare, souvent richement sculptés, et toujours bardés de dorures. Dans les niches murales, les coupes et les vases du peuple de la mer, d'une incroyable finesse, valaient plusieurs fois leur poids en or. Même chose pour les statuettes incrustées de gemmes qu'on trouvait un peu partout. Là, un léopard en or, des rubis en guise d'yeux, tentait de renverser un cerf en argent aux andouillés piquetés de gemmes. Ici, un lion d'or encore plus grand, avec des émeraudes dans les orbites et des rubis à la place des griffes. Une incroyable collection d'œuvres d'art d'une valeur inestimable. En livrée noire et or, tous les serviteurs s'inclinaient sur le passage de Rand. Ceux qui le reconnaissaient, nota-t-il, y mettaient plus d'ardeur que les autres. Pas mal d'yeux s'écarquillaient dès qu'ils se posaient sur les aïels. Mais la surprise n'altérait jamais la courtoisie de tous ces braves gens. Toutes les merveilles d'un palais, oui. Cela dit, la pierre était avant tout une forteresse conçue pour la guerre. À l'extérieur, en cas de siège, et à l'intérieur, s'il advenait une invasion. À chaque croisement de couloir, des trous ménagés dans le plafond permettaient une surveillance constante. Entre les tapisseries, des meurtrières placées en hauteur offraient un angle de tir parfait sur les deux extrémités d'un couloir. Même chose pour les escaliers, susceptibles de devenir des pièges mortels pour n'importe quel envahisseur. Dans l'histoire, avant le fameux jour, seuls les aïels avaient réussi à entrer dans la pierre. Incroyablement rapides, ils avaient conquis les lieux avant que ces fabuleuses défenses puissent se mettre en place. Tout autre envahisseur devrait payer un prix incroyablement élevé pour la conquête de chaque corridor. Merveilleux, non? Sauf que les portails avaient à tout jamais métamorphosé l'art de faire la guerre. Sans parler des fleurs de feu et d'une multitude d'autres nouveautés. Le prix restait élevé, certes, mais à présent, les murailles et les tours ne suffisaient plus pour contenir un assaut. Avec l'avènement des Achamans, la forteresse était devenue aussi obsolète que les épées de bronze et les haches de pierre que maniaient souvent les hommes après la dislocation. La plus vieille place forte de l'humanité n'était plus qu'une relique. Guidé par son lien avec Alanna, Rand monta des escaliers en série, jusqu'à ce qu'ils atteignent deux grandes portes polies, avec des léopards d'or en guise de poignée. Alanna était de l'autre côté. La nausée de Rand s'aggrava, lui coupant les jambes. Héroïque, il ouvrit un battant et avança, laissant les promises monter la garde sur le palier. Mine et les trois autres femmes le suivirent. Ce salon était presque aussi somptueux que le sien dans ses appartements. Les tapisseries montrant des scènes de chasse ou de guerre et les tapis du Tarabone, à eux seuls, coûtaient assez cher pour nourrir un gros village pendant un an. Assez grande pour qu'un homme y entre, la cheminée de marbre noir était suffisamment large pour en laisser passer 8 de front. Le mobilier et les accessoires se révélaient à la hauteur, de quoi donner le tournis, même quand on n'avait pas avant d'entrer. À la lumière des lampes et du plafond vitré, Rand admira l'ours en or aux yeux de rubis et aux griffes d'argent qui se dressait à l'autre bout de la pièce. De 3 pieds de haut, il trônait sur un piédestal, en face d'un aigle aux serres de rubis presque aussi grand que lui. À l'échelle de Théar, un salon des plus modestes. Assise dans un fauteuil, Alanna leva les yeux quand elle entendit les pas de Rand. Puis elle tendit son gobelet en or pour qu'une des deux servantes le remplisse avec le vin d'une carafe en or à haut col. Élancée dans sa robe d'équitation gris rayé de vert, Alanna était si belle que Loustérine se mit à fredonner tout seul. Avant de se raviser, ignorant si ce geste venait de lui ou du démon, Rand faillit se toucher le lobe de l'oreille. Alanna eut un sombre sourire, son regard noir balayant Mine, Nineveh, Alivia et Katsuane. Dans son lien avec l'Aes Sedai, Rand sentit de la méfiance, avec une bonne dose de colère et de rancœur, ces deux derniers sentiments particulièrement exacerbés vis-à-vis de la légende. De la joie se mêla au reste quand Alana croisa le regard de Rand.
« Quelle surprise, Seigneur Dragon !»
fit-elle en insistant un peu sur le titre.
« C'est même stupéfiant. Qu'en pensez-vous, Seigneur Astoril ?»
Alana n'avait donc averti personne. Un détail intéressant, ça.
« Une très agréable surprise, oui. »
acquiesça un homme d'âge plus que mûr, en se levant afin de se fendre d'une courbette. En veste grise aux manches rayées de rouge et de bleu, le seigneur Astoril Damaras lissa sa barbe pointue huilée. Le visage parcheminé et les cheveux blancs comme neige, ce gaillard restait droit comme un i, et ses yeux brillaient autant que ceux d'un jeune homme.
« Voilà un moment que j'attendais ce jour, »
dit-il avant de s'incliner à nouveau, devant Katsuane cette fois. Après un moment, il fit de même à l'intention de Ninévée.
« Aes Sedai !»
souffla-t-il. Un accueil très civil pour Théar, où canaliser le pouvoir était interdit, jusqu'à ce que Rand modifie la loi. Les sœurs étaient admises, à condition de rester loin de la source. En veste verte aux manches rayées de jaune, ses bottes rehaussées de fil d'or, Darline Cisnera, au seigneur et régent de Théar pour le dragon réincarné, faisait une tête de moins que Rand. Les cheveux courts et la barbe pointue, il arborait au-dessus de son nez épais des yeux bleus qu'on ne voyait pas souvent dans le royaume de Théar. Des yeux qui s'écarquillèrent lorsqu'il tourna la tête, délaissant sa conversation avec Caroline d'Amodred, et reconnut le visiteur qui venait d'entrer. En apercevant la noble dame du Caerien, Rand eut un choc, même s'il s'attendait à la trouver ici. D'instinct, la litanie de noms qu'il utilisait pour forger son âme et l'endurcir retentit dans sa tête, et il dut faire un effort pour l'enchasser. Petite et mince, le teint pâle, Caroline arborait au-dessus de ses grands yeux noirs un petit rubis accroché à la chaîne d'or qui tenait en place ses longs cheveux bruns. En d'autres termes, c'était le portrait craché de Moiraine, sa cousine. Pour ne rien arranger, elle portait une longue veste brodée de volutes d'or, sauf sur le devant, où des rayures horizontales rouges, vertes et blanches signalaient son rang au sein de sa maison. Un pantalon serré vert et des bottes bleues complétaient sa tenue. Ainsi, la mode lancée par Mine était arrivée jusqu'ici, finalement. Caroline fit une révérence qui, dans cette tenue, eut quelque chose d'extravagant. Loustérine fredonna assez fort pour que Rand l'entende de nouveau, et regrette qu'il n'ait pas de visage, histoire de pouvoir le souffleter. Moiraine était un souvenir qui aidait à forger une âme, pas une fille à chanson.
« Seigneur Dragon !»
dit Darline en s'inclinant. Il ne saluait pas Katsuane, se contentant de la foudroyer du regard avant de l'ignorer ouvertement. Au Caerien, la légende avait un temps gardé Caroline et Darline en tant qu'invités. Un outrage que le haut seigneur n'était pas prêt d'oublier, et encore moins de pardonner. Sur un geste de lui, les deux servantes proposèrent du vin au nouveau venu. Comme on aurait pu s'y attendre, Katsuane au visage sans âge fut la première servie. Plus surprenant, Ninévée fut la deuxième. Dragon réincarné ou non, une porteuse de la bague au serpent méritait des égards, même à Théar. Après avoir écarté les pans de son manteau, Katsuane alla s'adosser contre un mur. Un comportement inhabituel, ça. Mais de là, elle pourrait tout observer en même temps. Pour la même raison, Alivia se posta près de la porte.
« Je me réjouis de te voir en meilleure forme que la dernière fois, Seigneur Dragon, » dit Darline.
« En me nommant, tu m'as fait un très grand honneur. Cela dit, si tes Aes Sedai continuent à ne faire aucun progrès, je finirai par y laisser ma tête. »«
Ne boude donc pas, Darline, »
souffla Caroline, visiblement amusée.
« C'est la spécialité des hommes, pas vrai, Mine ?»
Pour une raison connue d'elle seule, la compagne de Rand éclata de rire.
« Que faites-vous ici ?»
demanda le jeune homme aux deux personnes qui ne s'attendaient pas à voir. D'une des deux servantes, il accepta un gobelet, pendant que l'autre hésitait entre Mine et Alivia. Ce fut Mine qui l'emporta, peut-être parce que la robe de la Seine Chanienne était dépourvue d'ornements. Mine approcha de Caroline. Sur un regard de la Caerienienne, Darline s'écarta en souriant. Très près l'une de l'autre, les deux femmes commencèrent à chuchoter. Connectées au pouvoir, Rand réussit à saisir quelques mots. Son nom, par exemple. Et celui de Darline. Un des deux intrus, Wairamon Sanyago, lui aussi haut seigneur de Théar, était de bonne taille et se tenait également droit comme un i. L'ennui, c'était qu'il évoquait irrésistiblement un coq qui parade. Sa barbe pointue striée de gris, il tremblait quasiment de fierté.
« Vive le seigneur du matin »
lança-t-il en s'inclinant, une incantation à quelque chose près. Déclamation et incantation étaient les deux mamelles de ce type, si on osait la figure de style.
« Ce que je fais ici, Seigneur Dragon ?»
Il semblait sincèrement surpris par la question.
« Quand j'ai appris que la pierre était assiégée, avec mon ami Darline à l'intérieur, que pouvais-je faire, sinon voler à son secours ? Que la lumière me brûle ! Si j'avais pu convaincre d'autres seigneurs de m'accompagner, nous aurions déjà fait rendre gorge à Estanda et à ses alliés. »
Wairamon serra un poing pour ponctuer sa tirade.
« Mais seule Anaïella a eu le courage. Les Kyrieniens n'étaient qu'une bande de poules mouillées. »
Cessant de converser avec Mine, Caroline foudroya du regard l'insolent. S'il s'en était aperçu, Wairamon aurait sans doute cherché quelle partie de sa veste était roussie. Avec une moue, Astoril s'absorba dans l'étude de son vin. La haute dame Anaïella Narencelona portait elle aussi une veste, un pantalon moulant et des bottes à talons, mais elle avait ajouté à sa tenue un col de dentelle. Quant à son manteau vert, il était orné de perles, une coiffe assortie couvrant ses cheveux noirs. Mince et jolie, elle fit une belle révérence, mais donna le sentiment de vouloir embrasser la main de Rand. Courage n'était pas le mot que le jeune homme aurait choisi. Minauderie convenait mieux.
« Seigneur dragon,
susurra-t-elle,
j'aimerais te faire un rapport triomphant. Hélas, mon maître des chevaux est tombé en affrontant les Séanchaniens, et tu as laissé en Ilian la majeure partie de mes soldats. Malgré tout, nous avons réussi à frapper en ton nom. »
« Triomphant ? Frappé ?»
Alana jeta un regard noir aux deux nobles avant de se tourner vers Rand.
« Ils ont accosté ici avec un seul navire, mais en débarquant en aval la majorité de leurs soldats et tous les mercenaires recrutés aux Kyriennes, avec ordre d'entrer en ville et d'attaquer. »
Elle eut un rictus dégoûté.
« Le seul résultat, ce fut un massacre et le sabotage de nos négociations avec les rebelles. »
Anaïella manqua s'étrangler avec son vin.
« Mon plan, » grogna Wairamon, « c'était de nous coordonner avec la pierre qui aurait lancé une sortie. Mais Darline a refusé. Oui, refusé !»
Darline ne souriait plus. Les pieds bien écartés, il semblait regretter d'avoir un gobelet dans la main, pas une épée.
« Je t'ai dit pourquoi, Wairamon. Si j'avais privé la pierre de ses défenseurs, les rebelles auraient gardé la supériorité numérique. Et de très loin, entre le fleuve Erinin et la baie de Remara, ils ont engagé tous les soldats de fortune. »
Rand se tira un siège. Les accoudoirs n'ayant pas de montant à l'avant, son épée ne le gênerait pas. Caroline et Mine semblaient être passés à un bavardage sur les chiffons. En tout cas, elles palpaient leurs vestes respectives, et le jeune homme reconnut des mots comme « point arrière » et « coupe en biais », quoi que ça veuille dire. Alana les regardait alternativement, Mine et lui. Dans ce lien-là, Rand sentit de l'incrédulité et de la suspicion.
« Je vous ai laissé aux Kyriennes, tous les deux, parce que c'est là que je vous voulais !»
Rand ne se fiait à aucun des deux. Aux Kyriennes, il n'aurait pas pu faire de mal. Des étrangers sans pouvoir. Attisé par la nausée, la colère fit trembler sa voix.
« Veuillez y retourner le plus vite possible. Vous m'entendez ?»
Toute minauderie oubliée, Anaïella se décomposa. Hélas, Wairamon était d'une autre trempe.
« Seigneur dragon, je veux bien te servir n'importe où, mais c'est dans mon pays natal que je serai le plus utile. Je connais ces rebelles. Sur certains points, ils sont fiables et sur d'autres,
aussi vite que possible !»
coupa Rand en tapant du poing sur un accoudoir qui craqua sinistrement.
« Hein ?»
marmonna Katsuane, un commentaire incompréhensible de plus.
« Je vous conseille d'obéir, seigneur Wairamon. »
intervint Nineveh avant de boire une gorgée de vin.
« Ces derniers temps, il est plus grognon que jamais, et vous ne voudriez pas en faire les frais. »
Katsuane soupira à Pierre Fambre.
« Ne te mêle pas de ça, ma fille »
grinça-t-elle. Nineveh ouvrit la bouche pour répliquer, mais elle y renonça. Sa natte, dans un point, elle alla rejoindre Mine et Caroline, en glissant plus qu'en marchant, une technique qu'elle maîtrisait de mieux en mieux. La tête inclinée sur un côté, Wairamon dévisagea un moment la légende, puis il capitula.
« À tes ordres, dragon réincarné. Mon vaisseau sera prêt à appareiller demain matin. Ce sera suffisant ?»
Rand acquiesça distraitement. « Il faudrait faire avec. » Pas question de perdre du temps à ouvrir un portail pour se débarrasser de ces fâcheux.
« En ville, » dit-il. « Les gens crèvent de faim. »
Il regarda l'ours en or.
« Avec son prix, combien de temps les nourrirait-on »
L'idée de manger lui retournant l'estomac, le jeune homme attendit une réponse, qui ne tarda pas à venir, mais pas de là où il l'attendait.
« Darline a fait envoyer des bœufs et des moutons en ville, »
dit Caroline, soudain remontée. Ce fut au tour de Rand d'avoir droit à un regard incendiaire.
« Mais par ces temps... »
Caroline hésita, ses yeux lançant toujours des étincelles.
« Par ces temps, la viande est immangeable 2 jours après l'abattage. Du coup, il a envoyé des bêtes sur pied et de pleins chariots de grains. Estanda et ses sbires se sont emparés de tout. »
Darline eut un regard reconnaissant pour Caroline, puis il précisa, un peu gêné.
« J'ai essayé 3 fois, mais Estanda est obstiné. Après, je n'ai plus cru bon d'approvisionner mes ennemis. Tes ennemis, seigneur dragon. »
Rand hocha la tête. Au moins, le régent n'ignorait pas ce qui se passait dans la capitale.
Deux gosses vivent dans les faubourgs. Donnie et Com. Je ne sais rien de plus. Une fois les rebelles vaincus, quand tu pourras quitter la pierre, j'aimerais que tu les trouves et que tu veilles sur eux. Min poussa un petit cri. Dans le lien, la tristesse manqua submerger les flots d'amour qui se déversaient aussi. Compris. Ce qu'elle avait vu, c'était une mort imminente. Mais pour Moiraine, elle s'était trompée dans l'autre sens. Au fond, un taverne pouvait peut-être altérer ses visions.
« Non !» grogna Loustérine. « Rien ne doit les altérer. Il faut que nous crevions !»
Rand ignora le spectre. Visiblement troublé par la requête, Darline promit néanmoins d'y accéder. Face au dragon réincarné, que faire d'autre? Rand s'apprêtait à aborder la raison de sa venue quand Béra Harkin entra dans le salon, l'air renfrogné comme si les promesses posées dans le couloir lui avaient fait des difficultés. Ce qui était très possible. Aux yeux des Aiel, les Aes Sedai fidèles à Rand ne valaient pas mieux que les apprentis des matriarches. Et un de leurs jeux favoris, c'était de remettre à leur place les dits apprentis. Envoyée à Théar avec d'autres sœurs pour négocier avec les rebelles, Béra était une robuste femme, dont les cheveux courts encadraient un visage carré. Malgré sa belle robe en soie, n'était le visage sans âge des sœurs, elle aurait eu l'air d'une fermière. Le genre qui régnait sur sa maison et son domaine d'une main de fer, et qui n'aurait pas hésité à dire à un roi de ne pas laisser des traces de boue dans sa cuisine. Une digne sœur verte, en d'autres termes, avec toute l'arrogance requise. Avisant à Livia, elle plissa le front, pleine du dédain habituel des Aes Sedai pour les naturels. Quand ses yeux se posèrent sur Rand, son attitude changea à peine.
« Eh bien, je ne devrais pas être surprise de te voir, après ce qui est arrivé ce matin. »
Béra ouvrit la broche qui tenait son manteau, retira le vêtement et le plia sur son bras.
« Mais tu es peut-être là parce qu'on annonce que les autres ne sont plus qu'à un jour du fleuve Erinine. »
« Les autres ?» demanda Rand, agacé. Pas le moins du monde impressionné, Béra lissa le pli de son manteau.
Les autres hauts seigneurs et hautes dames, bien entendu. Sunamon, Tomeran et compagnie. D'après ce qu'on dit, ils foncent vers Théar aussi vite que le leur permettent leur canasson.
Rand se leva si vite que son épée manqua rester coincée sous la coudoire. Manqua seulement. Déjà affaibli par son coup de poing, le bois ne résista pas et la coudoire tomba sur le sol. Le jeune homme ne se laissa pas déconcerter par l'incident. Les imbéciles. Laissez Anshanien déjà près de la frontière avec Altara et voilà qu'il revenait en Théar.
Quelqu'un se souvient encore du sens du verbe obéir? Qu'on le renvoie sur le champ des messagers. Ces idiots doivent retourner en Ilian à la vitesse de l'éclair. Sinon, je les ferai pendre. Tous, les uns après les autres.
Deux,
fit Katsuane. Par le sang et les cendres, que comptait-elle ainsi?
Tu veux un conseil, mon garçon? Demande-lui ce qui est arrivé ce matin. Je flaire une bonne nouvelle.
Béra sursauta quand elle s'avisa que la légende était dans la pièce. Après lui avoir coulé un regard soupçonneux, elle cessa de triturer son manteau.
Nous avons conclu un accord,
dit-elle, comme si l'affaire était réglée.
Tedosian et Simaan hésitaient, comme toujours. Mais Ehan s'est montré aussi enthousiaste qu'Estanda. Je crois que Tedosian et Simaan auraient cédé plus tôt, mais des étrangers à l'accent bizarre leur avaient promis de l'or et des armes.
« Laissez Anshanien, »
marmonna Nineveh. Alivia ouvrit la bouche et se ravisa.
« C'est bien possible, »
reconnut Béra.
« Il ne s'approche pas de nous, comme si nous étions des chiens enragés prêts à les mordre pour passer le temps. Ça correspond à ce que j'ai entendu dire d'eux. Quoi qu'il en soit, il y a moins d'une heure, Estanda s'est soudain mise à demander si le seigneur dragon lui rendrait ses titres et ses terres. Les autres lui emboîtaient le pas. Du coup, voici les termes de l'accord. La nomination de Darline au poste de régent est acceptée, et toutes les nouvelles lois seront entérinées. Pour expier leur faute, les rebelles paieront la nourriture des citadins pendant un an. En échange, ils veulent l'amnistie pour tous leurs titres et domaines. Darline sera couronnée roi et lui jureront fidélité. Merana et Raphaëla préparent les documents qu'il faudra signer et sceller.
« Roi ?» répéta Darline, incrédule. Caroline se tourna vers lui et lui prit le bras.
« L'amnistie, plus tous leurs titres et domaines ?»
rugit Rand. Il posa son gobelet sans douceur, renversant du vin. Dans le lien, Min l'exhorta au calme, mais il n'en tint pas compte. Avec la nausée qui lui retournait les entrailles, il fallait bien qu'il finisse par exploser.
« Par le sang et les fichus cendres !»
cria-t-il.
« Je les ai privés de leurs titres et de leurs domaines pour les punir de m'avoir trahi. Ils peuvent rester de vulgaires roturiers et me jurer allégeance. »
Trois.
Récita Katsuane. Rand sursauta quand ce qui semblait être une lanière invisible s'abattit sur son postérieur. Les yeux ronds, Béra en laissa tomber son manteau. Nineveh, elle, sourit de bon cœur. Brièvement, mais...
« Ne me force pas à te rappeler les bonnes manières, mon garçon, » dit Katsuane. « Avant son départ, Alana m'a parlé des conditions que tu imposais. Darline confirmée comme régent, tes lois entérinées et tout le reste négociable. Tu devrais être satisfait. Bien entendu, tu es libre de n'en faire qu'à ta tête, mais j'ai encore un conseil. Quand on accepte tes conditions, n'en demande pas plus.
Sinon, personne ne te fera confiance.
dit Loustérine d'un ton tout à fait raisonnable. Pour le moment. Les poings serrés, Rand foudroya Katsuane du regard, comme s'il allait l'incinérer avec quelque tissage. Ses fesses l'élançaient, et en selle ce serait encore pire. La zébrure commençant à pulser, sa fureur l'imita. Très calme, Katsuane regarda Rand par-dessus le bord de son gobelet. Dans son regard, y avait-il un défi? Lui déconseillait-elle de canaliser? En permanence, elle le forçait à disputer un bras de fer contre elle. C'était insupportable. Sauf que son conseil tenait la route. Les conditions, c'était bien lui qui les avait transmises à Alanna. Il aurait juré que les rebelles marchanderaient ferme, mais tout avait été plus facile que prévu. Et comme il n'avait pas pensé à des dédommagements... « On dirait que ton destin est au beau fixe, roi Darline !» La charande. Avec une révérence, une des servantes lui tendit un nouveau gobelet. Sur son visage, Rand ne lut aucun sentiment. On aurait juré que voir des hommes se prendre le bec avec des Aes Sedai était son pain quotidien.
« Vive le roi Darline !»
lança Wayramon, non sans s'étrangler à demi. Après un moment, Anayela l'imita, le souffle haché comme si elle avait couru une lieue. Par le passé, elle s'était proposée pour porter la couronne.
« Pourquoi les Théariens m'accepteraient-ils ? »
demanda Darline, en se passant une main dans les cheveux.
« Moi ou n'importe qui d'autre ? La pierre n'a plus abrité de loi depuis la mort de Moreina, il y a 1000 ans. C'est vous qui avez exigé ça, Béra Sedai ?»
Béra se redressa après avoir ramassé son manteau, qu'elle secoua furieusement.
« C'était leur... exigence serait un trop grand mot. Leur suggestion. Estanda la belle première, aucun d'eux n'aurait raté une occasion de monter sur le trône. »
Anayela poussa un petit cri.
Mais ils avaient conscience que c'était sans espoir. Ainsi, ils te jureront fidélité, roi Darline, au lieu de faire allégeance au dragon réincarné. Une pilule moins dure à avaler.
Et si tu es roi?
Intervint Caroline.
Ça signifiera que le titre de régent pour le dragon réincarné perdra de son importance.
Elle eut un rire de gorge.
Ah, pour qu'il finisse aux oubliettes. Il pourrait même y ajouter 3 ou 4 autres titres bien ronflants.
Béra pinça les lèvres, comme si elle avait été sur le point d'avancer cette hypothèse.
« Tu épouserais un souverain, Caroline ?»
demanda Darline.
« Si ta réponse est oui, je scindrai la couronne. Enfin, quand elle aura été fabriquée. »«
Je peux vous dire à quoi elle devra ressembler ?»
intervint Mine.
« Si ça vous intéresse. »
Caroline rit de nouveau, lâcha le bras de Darline et s'écarta de lui.
« Avant de répondre, il faudra que je t'aie vu avec. Suis les indications de Mine, et si la couronne te va, eh bien, j'y réfléchirai. »«
Vous avez tous mes vœux de bonheur, » dit Rand. Et il nous reste des sujets importants à traiter. »
Mine regarda durement son compagnon, et de la désapprobation se déversa à flot dans le lien. Ninevé aussi parut indigné. Que se passait-il encore?
« Darline, tu vas accepter la couronne. Et dès que l'accord sera signé, je veux que tu arrêtes ces Anshaniens, puis que tu réunisses tous les hommes à Théar qui savent tenir une épée ou une hallebarde. Je ferai en sorte que les Ashaman vous conduisent tous en Arad-Doman. »
« Et moi, Seigneur Dragon ?»
demanda Wayramon, frétillant d'impatience et toujours aussi bouffi de lui-même.
« S'il faut se battre, je te serai plus utile en première ligne que relégué aux Kyrienne !»
Rand étudia le gaillard, puis Anayela. Wayramon était un crétin, et la femme ne lui inspirait pas confiance. Mais avec si peu de soldats, quel mal risquait-il de faire?
« D'accord. Tous les deux vous accompagnerez le roi Darline. »
Anayela eut l'air déçue, comme si retourner aux Kyrienne l'aurait davantage intéressé.
« Que suis-je censé faire en Arad-Doman ?»
demanda Darline.
D'après le peu que je sais, ce pays est un asile de fous.
Dans la tête de Rand, Loustérine éclata de rire.
Tarmon Gaidon approche, répondit Rand.
La lumière fasse que ce ne soit pas pour demain.
Tu iras en Arad-Doman, afin d'être prêt pour l'ultime bataille.